J'ai donné un titre à mon homélie. Quelques lignes du curriculum vitae, du CV, comme on dit communément, de Jésus. Je ne fais pas tout le curriculum jusqu'à la fin, je vais m'en garder pour les autres dimanches, parce que autrement, ce serait trop long. Alors, au début du premier millénaire, sous le règne d'Hérode Antipas, donc vers les années 25-27, Jésus est né à Bethléem dans des circonstances houleuses. Marie, la fiancée de Joseph, est enceinte avant même de résider avec lui. Et Joseph, qui est un homme juste, comme dit le texte, songe même à la répudier en secret. Mais Gabriel, l'ange du Seigneur, le convainc de prendre chez lui son épouse, qui a été choisie pour être la mère sauveur. Jésus est le petit cousin de Jean-Baptiste. Parce qu'un jour, Marie a été avisée que sa cousine Élisabeth était enceinte, elle aussi. Et là, ben, c'est toute une chose qui s'organise. Marie va passer quelques temps avec Élisabeth. Et c'est vraiment comme les familles le faisaient dans de telles circonstances. L'ange dit à Marie, « Voici que ta parente, ta cousine, Élisabeth, vient de concevoir un fils dans sa vieillesse. » Et quand il vit au monde, ben là, il y a un peu... Zacharie était devenu muet parce qu'il avait douté un peu de la parole de l'ange. Et là, ben, à un moment donné, avec Zacharie, ben, on s'aperçoit que Jean-Baptiste va être vraiment celui qui va précéder le précurseur de Jésus. Jésus, lui, grandit en sagesse et en âge. On n'a pas tellement de détails sur son enfance. Il a probablement fait les mêmes choses que les petits-enfants de cet âge-là. Ils ont grandi avec... Bon, ils allaient à l'école. Ils apprenaient tout quasiment à partir des textes sacrés de la Bible. On apprenait à compter, à lire. On apprenait la géographie. On apprenait l'histoire quasiment à partir de la Bible. Il n'avait pas de volume dans ce temps-là. Alors, Jésus grandit en sagesse et en âge. Et à 12 ans, dans le temple, lors d'un premier pèlerinage pascal, il confond les scribes et les docteurs de la loi par sa sagesse et sa maturité. Il demeura à Nazareth. On y a vécu sa jeunesse et même le début de sa vie adulte. Il a probablement, si on n'a pas de preuve de ça, là, je pense que ça pourrait être de même, il a probablement aidé son père Joseph qui lui a montré son métier de charpentier. Et un jour, ben, celui qui annonce le prophète Jésus, c'est Jean-Baptiste. C'est pourquoi on l'appelle le précurseur. Donc, c'est lui qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est allé du texte qu'on a eu la semaine passée. Le Baptiste proclame un baptême de l'Esprit et prépare la route au Messie tant attendu. Et on sait que c'est Hérode qui a fait décapiter Jean parce qu'il dénonçait la vie adultère du roi. Après la mort de Jean-Baptiste, Jésus s'installe à Capharnaüm. C'est le texte qu'on a eu ce matin. Et il débute sa vie publique de prophète. Il commence d'abord par proclamer un genre de, comme on dit des fois nous autres, pas un dicton, mais une parole là, qu'on répète souvent pour s'en convaincre. « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Il interpelle quelques pécheurs, on l'a vu dans l'Évangile, et les invite à le suivre. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » André et Pierre, Jacques et Jean, n'hésitent pas à laisser leur barque et leur père. L'aventure commence avec le choix de ses quatre premiers apôtres. Et Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait maladies et infirmités dans le peuple. Et très tôt, Jésus s'est confronté aussi aux scribes et aux docteurs de la loi. Et les grands discours de Jésus, on va en avoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, par exemple, le texte, c'est le texte des Béatitudes. Un des premiers grands discours de Jésus sur le bord du lac. Alors, c'est comme ça qu'on va le suivre jusqu'à sa mort au temps de Pâques, vers la mi-avril, je pense, 10-12 avril, Pâques cette année, je ne me souviens pas, là, dans ce coin-là. Alors, j'interromps ici lisez le CV de Jésus, nous aurons d'autres occasions d'en reparler dans les semaines à venir. La semaine dernière, on nous avait invités à prier beaucoup pour l'unité des chrétiens. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, prône l'unité et l'harmonie. Il nous invite à bannir les rivalités, les divisions, les chicanes. Si nous avons été baptisés au nom du Christ, nous devons prendre parti pour lui. Les chrétiens d'Orient et d'Occident doivent vivre dans le respect mutuel. Depuis Jean 23, beaucoup de chemin a été parcouru concernant l'unité des chrétiens. Alors, avant ça, il y avait beaucoup de frictions, jusque dans les années 50, entre protestants, catholiques, orthodoxes. Il y avait toutes sortes de choses, de chicanes, des fois un peu trop théologiques, tout ça. Alors, avec Jean 23, à un moment donné, lui, il a dit, bon, ben écoutez, là, on va arrêter de chicaner, on croit tous au même Jésus, on croit tous au même Christ, ben on va s'organiser pour s'entendre. Et il a commencé à faire des prières communautaires avec les juifs, les chrétiens, les orthodoxes, les protestants et tout. Alors, les chrétiens d'Orient et d'Occident doivent vivre dans le respect mutuel. Les chrétiens de diverses dénominations, présentement, là, prient ensemble, participent conjointement à des projets d'aide humanitaire et témoignent de leur compassion envers les plus démunis. Ça devrait être ça qui nous caractérise, les chrétiens. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Du côté des chrétiens, il y en a beaucoup. Ça regroupe à peu près 1 milliard et 200 millions de personnes. Mais il y a beaucoup de bouddhistes aussi, il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de... Je pense que c'est au-delà de 200 dénominations de personnes qui croient au Christ et qui essaient de jeter un peu les mêmes objectifs que les autres. La paix, l'harmonie. Alors, on a les bouddhistes, les hindouistes, il y en a, là, comme je disais tout à l'heure, des centaines. Alors, si le Christ est une lumière pour toutes les nations, comme on l'a récité tout à l'heure, il est la source de l'unité pour tous les peuples, bien que ce même Jésus qui veut nous unir autour de lui, bien, qu'il nous renouvelle, qu'il nous aide à mieux comprendre cette bonne nouvelle qu'il nous a répétée. Et on peut demander à l'Esprit, ce matin, à l'Esprit de Dieu, de nous venir en aide, parce que Jean 23 disait, « Seule la prière et la confiance et le respect vont pouvoir nous réunir ensemble. » Et justement, aujourd'hui, je pense que c'est à 2 h, à l'église de Rock Forest, il y a justement une prière pour l'unité des chrétiens. On termine la semaine de l'unité des chrétiens, là, aujourd'hui. Alors, s'il y en a qui veulent y aller, c'est à 2 h. Vous allez voir des orthodoxes, des chrétiens, des protestants. Ça, ils vont prier ensemble pendant 1 h, 1 h 15, je ne sais pas comment ça dure. Puis ensuite, il y a un lunch, je pense. Puis on fait ça chaque année. Alors, c'est la prière de l'unité des chrétiens. Alors, c'est à l'église de Saint-Roch. Et c'est la prière pour l'unité des chrétiens à 14 h cet après-midi.